La marche du monde, Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, témoins et acteurs de l'histoire. 75 ans après la libération du camp d'Auschwitz par les soviétiques, je vous propose de découvrir en exclusivité le témoignage de Paulette Sarcé, juive, communiste et résistante à Auschwitz.
Ce qui nous a permis de survivre, parce que vivre un jour de plus à Auschwitz, c'était un acte de courage et de résistance. Nombre de femmes sont parties se jeter sur les fils de fer barbelés parce qu'elles ne pouvaient plus. Nous, on voulait, c'est parce qu'on était un groupe, on était une organisation, on avait toujours quelqu'un pour soutenir l'autre. S'il y avait une toute petite chance d'être un survivant pour témoigner, il faut que quelqu'un sorte raconter.
La voix de Paulette Sarcé dans La Marche du Monde. Paulette a survécu 2 ans dans les camps d'extermination nazis, une longévité exceptionnelle. Déportée en 1943 de Drancy à Auschwitz, elle a tout juste 19 ans. Et avec son groupe de jeunes communistes juifs, elle fait un serment, résister ensemble pour survivre et raconter. Paulette Sarcé est une femme de parole. Et en 1983, elle témoigne devant la caméra de Jean-Patrick Lebel. Il est alors en préparation de son film « Cité de la muette » sur l'histoire du camp de Drancy. Et pour la première fois, l'intégralité de son entretien, ainsi que le documentaire « Cité de la muette » sortent en DVD dans une coédition Cinéarchives et Périphérie que je remercie pour avoir choisi RFI. Paulette Sarcé, juive, communiste et résistante à Auschwitz, c'est le récit unique et précis d'une femme engagée avec son groupe de jeunes résistants contre la barbarie nazie. Un épisode documentaire de La Marche du Monde, signé Valérie Nivelon, Maxime Grimbert et Sophie Janin, avec la participation de l'historien Tanguy Perron.
Moi, je suis née à Paris. Et de parents d'origine polonaise. Hein. Nous sommes juifs d'origine polonaise. Mes parents sont venus en 23 en France. Je suis née en 24. Bon, ben, j'ai eu une enfance très choyée, très dorlotée, malgré les difficultés des ouvriers émigrés. Il y avait à Belleville une forte concentration d'émigrés. C'était presque un petit ghetto. On jouait dans la rue, tout le monde se connaissait. Je n'avais pas le sentiment d'émigrer, je l'avais un peu quand des camarades montaient à la maison et que mes parents parlaient le français très mal. C'est vrai que ça me gênait. Je sentais que j'étais pas comme les autres. C'est vrai que ça me gênait et que je n'aurais pas aimé que maman vienne voir une maîtresse, une institutrice ou le directeur parce qu'elle ne parlait pas tout à fait comme les autres. Elle parlait même très mal le français. Mais autrement, je ne me sentais pas inférieure aux autres.
À la maison, Paulette parle le yiddish avec son petit frère et ses parents. Et son nom de baptême est Paula Slivka. Son père a fui la Pologne à cause de la répression syndicale et politique envers les militants communistes. Mais dans le quartier populaire de Belleville, il fait vivre sa famille avec son atelier de couture. À partir de la défaite de la France face à l'Allemagne en 1940, l'État français succède à la République. Considéré par le régime de Vichy comme des ennemis de l'intérieur, les Juifs sont discriminés et internés dès 1941. Et dans le cadre de la collaboration avec les Allemands, la loi du 20 mai 1942 rend obligatoire le port de l'étoile jaune, puis celle du 11 décembre impose la mention « juif » sur les titres d'identité délivrés aux Israélites français et étrangers.
Je crois que j'ai quitté l'école après qu'on nous ait mis le tampon juif sur la carte d'identité. Je n'ai pas porté d'étoile. D'ailleurs, c'était l'angoisse de maman qu'on me dénonce. Mais mes parents ont porté l'étoile, mon petit frère allait à l'école avec l'étoile jaune, et ma carte d'identité avait le tampon juif. On m'a donné l'étoile que je n'ai jamais cousue sur mon vêtement, parce que je voulais circuler librement et ne pas avoir à cacher l'étoile sur mon vêtement. Et à ne pas prendre le dernier métro et à rentrer dans un square pour un rendez-vous et aller au cinéma pour faire un lancer de tract, pour être libre.
Résistante dans l'âme, Paula a été formée dans les patronages créés par les associations juives. À travers les chants et les danses, elle s'approprie sa culture et retrouve aussi les valeurs politiques de son père, car les animateurs sont proches du mouvement communiste. Foulard rouge autour du cou, Paula et ses camarades préfigurent les groupes de jeunes résistants du MOI, la main-d'œuvre immigrée.
Je faisais partie... Mon père avait créé avec d'autres personnes des patronages où on nous apprenait le yiddish et où on nous donnait une culture générale très progressive. J'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je crois que l'avenir a été déterminé par mon éducation et à la maison et dans ses patronages. Dès 40, dès que les Allemands sont entrés à Paris, nous avons reconstitué, alors dans la clandestinité, les mouvements de la jeunesse pour faire un travail politique. Nous étions très peu nombreux. J'étais sur le 11e, la rédaction de tracts, la diffusion de ces tracts. Et je suis donc restée à la maison jusqu'au mois de juin 42. Où mon responsable m'a demandé de passer dans la clandestinité. Et j'ai mis mes parents devant un fait accompli en leur disant que je quittais la maison, qu'on m'avait cédé une planque, c'est-à-dire un logement clandestin, avec un nom d'ailleurs clandestin, je m'appelais Marie-Thérèse Munier. Il s'agissait des jeunesses issues de ces patronages juifs qui ont adhéré à la jeunesse communiste. Bon, par la suite, nous étions partie intégrante du Front National et des FTP. Mais au début, c'était un travail uniquement politique et de propagande. Entre autres, un travail de sabotage quand on arrivait à se faire... Enfin, je me suis fait embaucher dans un atelier de fourrure rue du Mail et... Je devais faire du sabotage. Ça semble peut-être petit, mais le fait de faire une coupure d'électricité et que les machines s'arrêtent pendant quelques heures, c'était un acte de sabotage. D'essayer de faire brûler la production de la journée qui était des canadiennes et des gants pour l'armée allemande, c'était un acte de sabotage. Une fois qu'on avait fait l'acte de sabotage, on disparaissait de l'atelier. Et en même temps, un travail politique, la distribution de tracts sur les marchés à la sortie des ateliers, des lancers spectaculaires dans les cinémas, c'était quelque chose d'extraordinaire. Des lancers à partir d'une rame de métro sur la ligne Nation-Dauphine, au moment où, à Jaurès, le métro passe dans la courbe, les portes s'ouvrent, on lançait des tracts sur la rue, et à Aubervilliers de sauter le train en marche pour disparaître.
À la demande de son compagnon Henri Krasuki, Paulette a la responsabilité de reconstituer son groupe de camarades juifs des patronages. Le futur leader de la CGT des années 80 est alors en charge de son groupe de jeunes communistes. Ensemble, ils dénoncent la collaboration du régime de Vichy avec les nazis, le rationnement et les pénuries. Ils sont clandestins, agissent dans l'illégalité et se préparent à la lutte armée. Ils risquent d'être arrêtés à tout moment par les policiers français des brigades spéciales chargés de traquer les résistants et les juifs.
Le 16 juillet 1942, il y a eu la grande rafle du Veldiv. Nous avons été prévenus qu'il se préparait, qu'il y aurait une rafle. Moi, je n'étais plus à la maison. Je suis donc arrivée le 15 juillet dans l'après-midi pour prévenir mes parents qu'il y aurait une rafle grandiose. Ils étaient au courant déjà. On en parlait, il y avait des bruits, des rumeurs. Le 16 juillet au matin, mes parents ont pris la décision de quitter la maison et de se cacher dans cet atelier, dans cette pièce qu'ils avaient, dans la même rue. Donc on m'a donné une adresse dans la Sarthe d'une dame qui accepterait de garder un petit garçon juif. Et j'ai donc emmené mon frère dans la Sarthe, je le savais donc protégé. Et moi, j'étais dans cette planque, boulevard Mortier, dans une petite chambre de bonne. Jusqu'en mars 1943, où il y a eu cette infiltration d'un agent de l'ennemi dans notre groupe, qui a fait que nous avons été arrêtés le 23 mars à l'heure du laitier, une cinquantaine de jeunes. Toute notre organisation a été décapitée ce jour-là. Nous avons été arrêtés le 23 mars. Moi, j'ai été arrêtée dans ma planque. Évidemment, quand on tape à 5 heures du matin à la porte, ça ne peut être que la police. Bon, ils sont rentrés, armes au poing, pensant trouver ici un arsenal. J'ai eu le temps de détruire, de manger des biographies de camarades qu'on avait recrutés, mais qu'on avait fait sur du papier à cigarette, du zigzag. Tout de suite, bien sûr, le tutoiement, les coups, on a perquisitionné, on n'a rien trouvé. Des tracts. On n'a pas trouvé d'armes. La série d'interrogatoires a commencé, jour et nuit, nuit et jour. Quand ils m'ont rappelé le soir même chez le commissaire David à l'interrogatoire, j'ai dit « Je suis malade, je veux voir un médecin. » Tellement j'étais tabassée. Le lendemain matin, entourée de deux inspecteurs, on m'emmène à l'Hôtel Dieu, à la visite, à la consultation. On m'a hospitalisée. Le patron, c'était le professeur Hertz, qui était un collabo notoire, une ordure. Il expédiait ses malades au bout de quelques jours, des grands opérés, des grands malades. Et au bout de 15 jours, il m'a portée sortante de l'hôpital. Et me voilà embarquée dans une traction noire avec des Allemands. Et de l'hôpital Rothschild de rue Santerre, ils prennent le boulevard des Maréchaux. Et dans ma petite tête, je me dis, où on m'emmène? Ah, on prend les boulevards des Maréchaux, alors ils m'emmènent dans ma planque, ils ont dû trouver le revolver. Non, la voiture file, on a passé le boulevard Mortier, alors on va au Lila, on va mettre aux Tourelles. Non, on dépasse les Tourelles, je dis, bon, on va à Romainville. Non, on dépasse Drancy, les gratte-ciels. Je rentre donc dans ce couloir et je suis réceptionnée par tous mes camarades de mon arrestation. Qu'est-ce que j'étais contente. J'étais pas seule. Je retrouvais ma famille, mes amis. On m'a fait une fête, tout le monde. Dans ce malheur, c'était une joie de se retrouver. Parce que tous ensemble, on était une force, moralement.
Nous sommes le 18 mai 1943 à Drancy, au pied des gratte-ciels, un camp d'internement ouvert depuis 1941 à l'initiative du gouvernement de Vichy. Depuis la mise en œuvre de la solution finale par le régime nazi, Drancy est le camp de transit pour la majorité des Juifs, déportés depuis la France vers les centres de mise à mort, principalement Auschwitz-Birkenau.
Notre groupe était déjà organisé, ils y étaient depuis 5 semaines environ. On faisait des spectacles, on travaillait même. Pour avoir une ration de pain supplémentaire, on travaillait avec une camarade qui était corsetière de métier. On faisait pour des clientes qui venaient des soutiens-gorge sur mesure. Ma camarade coupait, faisait les essayages et moi j'étais sa machine à coudre, je piquais à la main. On avait entendu parler d'Auschwitz, on savait déjà qu'on brûlait, qu'on exterminait des gens, mais ça semblait invraisemblable, ça dépassait l'imagination. Donc, Drancy, on n'a pas imaginé que c'était l'antichambre de la chambre à gaz. Hein. Il y avait une demi-liberté, c'est-à-dire toute la journée on circulait à l'intérieur du camp, on se rencontrait avec nos garçons, avec nos hommes. Bon, on se séparait le soir, on communiquait. Et puis, au mois de juin, le 23 juin, le 22, la veille, on a appris qu'il y aurait une déportation. On est passé d'abord à un contrôle, soi-disant, d'identité, pour réunir les familles. Et on a discuté entre nous et notre objectif numéro un, c'est de rester ensemble, même dans le wagon. Alors on a convenu qu'on se mariait. Toi, tu seras le mari à un tel, toi, t'es la belle-mère à un tel, pour faire une famille, pour essayer d'être ensemble dans le train de la déportation. On était tous d'accord, même s'il devait y avoir des représailles, de tenter l'évasion. Et puis, d'une manière spontanée, on a ouvert les fenêtres, on est sorti sur cette terrasse qu'il y a, qui court tout autour du camp de Drancy. On a chanté la Marseillaise, on a appelé les gens dans leurs escaliers, qu'ils descendent, qu'ils se révoltent, qu'ils ne se laissent pas faire, qu'il ne faut pas partir, qu'il ne faut pas se laisser faire. Ça a été une panique subite dans le camp. Les gendarmes sont arrivés. Je crois qu'il y avait un ou deux Allemands. On a commencé à tirer en l'air. On a passé toute la nuit à parler, à faire des plans d'évasion. Comment on va faire? Qui partirait le premier? Comment on va faire? C'était pas de la naïveté, c'était vraiment la volonté de survivre, parce qu'on aurait arraché les planches du train avec les mains et avec les dents, puisqu'on n'avait plus rien. Donc le matin, on s'est bien regroupé, resserré, pour ne pas être dispersé, monté dans les autobus, et on nous a amenés à la gare du Bourget-Drancy. Pas la gare, c'est sur l'embranchement ferroviaire. Alors là, on est restés serrés les uns contre les autres. C'est mon mari, c'est ma belle-mère, c'est ma tante, c'est ma sœur, pour qu'on soit tous, absolument tous, dans le même wagon. Et ça nous a réussi, hein. On était tous dans le même wagon. Plus un bidon d'eau, un seau d'eau et un bidon qui servait de latrine. Premier aperçu, l'eau slow schnell, les coups allaient accélérer, vite, vite monter. Premier aperçu. Et le train s'ébranle, on ouvre la partie, la porte ouverte. On était très, très nombreux, je ne me souviens pas combien, mais on était assis, on ne pouvait pas s'allonger, on était simplement assis. Nous étions assis dans le coin. Donc, la porte ouverte, nous avons jeté des lettres. À Metz, le train s'est arrêté, on nous a rempli le seau d'eau et on a enlevé les chaussures des hommes. Et schlac, les portes fermées, le wagon plombé, c'est fini.
Vous écoutez RFI, la marche du monde.
75 ans après la libération d'Auschwitz, je vous invite à écouter le récit inouï de Paulette Sarcey, jeune juive résistante et communiste, déportée le 23 juin 1943 par le convoi numéro 55, alors qu'elle a tout juste 19 ans. Sur les 76 000 juifs déportés de France, seulement 4 000 sont revenus. Et Paulette est l'une des rares survivantes, toujours vivante. Paulette n'a jamais trahi son groupe de jeunes filles, ni le serment fait au camp. Si l'une d'entre elles survit, elle racontera ce qu'a été la barbarie nazie. Et le jour du départ, ce sont les policiers allemands et les gendarmes français qui les poussent dans le train à la gare du Bourget.
Dès qu'on s'est retrouvé dans les wagons, on a prévenu, voulu expliquer aux gens étrangers à notre groupe que nous allons essayer, tenter une évasion. Alors, les gens n'ont pas été d'accord. Parce qu'ils avaient peur des représailles. Et c'est vrai qu'il y aurait eu des représailles. Mais nous y étions prêts. Pourvu que si même un ou deux se sauvent, ça valait le coup. Et puis, on a lâché cette idée, on a dit tant pis. On part tous, puisqu'on va travailler. Et qu'on sera ensemble. On sera forts et on reviendra. Après Metz, au bout de quelques heures, il n'y avait plus d'eau dans le seau. Et que dans la nuit, la latrine était pleine. Il y a eu des scènes assez dures dans le wagon. Par la suite, quand on est arrivé, on a su qu'il y avait eu des scènes atroces dans les wagons, des scènes de folie. D'ailleurs, on l'a vu quand les portes se sont ouvertes. Bien souvent, il y avait déjà des cadavres, des gens qui n'ont pas tenu le coup dans ce voyage.
Le trajet est interminable. Pendant 2 jours et 2 nuits, Paulette et ses camarades se soutiennent alors qu'ils sont totalement compressés dans le wagon. La promiscuité des corps, la puanteur, l'inhumanité, ensemble, ils font face.
Donc, à un moment, le train ralentit, des coups de frein. Un gars va à la fenêtre, on essaye de lire, on essaye de voir. Il dit juste, on est dans une gare, Oświęcim. Jamais entendu parler de ça. C'est le nom polonais d'Auschwitz. Le train s'est arrêté. Les portes se sont ouvertes et là, c'était l'enfer. Ça a été tout de suite los, los, schnell, raus, 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 des coups de bâton. Tout ça, c'est très rapide. En allemand, on ne comprend pas. Les chiens qui aboient. On déchargeait les enfants, les gens, ceux qui ne pouvaient pas descendre. On les jetait par terre. Donc on rentre dans le camp, un orchestre joue, une allée centrale, des baraques de chaque côté, devant ces baraques. Des femmes habillées en tenues rayées, des cadavres. C'est pas nous, nous on est des déportés politiques, on est des résistantes. C'est pas ce traitement, mais qui sont ces gens ? Et on nous emmène au bout du camp, on traverse le camp, la tête haute, fraîche. Et on nous amène dans une baraque où on nous dépouille de tout, où on nous rase, où on nous tond et on nous tatoue. On comprend toujours pas. Peut-être qu'après on aura un régime différent. C'est pas possible, il y a une erreur. Je suis le numéro 46650. Je n'étais plus Paulette Slivka, j'étais le 46650.
Dans le cadre de la solution finale, mise en œuvre par les nazis avec la complicité du régime de Vichy, Paulette est déportée pour ce qu'elle est, juive, communiste, et résistante. Pour être tatouée, elle doit se ranger par ordre alphabétique. Mais Paulette Slivka se retrouve loin de ses copines, dont le nom commence par K. Prise d'une angoisse terrible de se retrouver seule, Paulette avance accroupie, se glisse derrière Léa Krasucki, la maman d'Henri Krasucki, et quand son tour arrive, elle donne le nom de Paulette Krasucki, Slivka. C'est ainsi qu'elle devient le numéro 46650.
On passe à une douche froide, le lendemain matin il y a déjà des mortes, et on demande aux femmes qui travaillent à la douche où sont nos mères. Elles nous disent, vous voyez la fumée là-bas? C'est le crématoire, elle brûle. Elle brûle. Oui, elles sont passées à la chambre à gaz et maintenant elle brûle. Alors on a compris. On a compris qu'on était dans un enfer. Probablement qu'on n'en sortira pas, parce que si on brûle, si on gaze des gens, des femmes, des enfants, des vieillards, il n'y aura pas de survivants, il n'y aura pas de témoins pour raconter. Alors il faut s'organiser, essayer de voir où on est, de faire quelque chose. On a fait un peu les difficiles, hein, le premier jour. Mais on a vite compris que il fallait prendre tout ce qu'on donne, le peu qu'on donne, c'était très important. Et on nous emmène en dehors du camp et c'est l'assainissement des marais. Alors on pioche, on remplit les brouettes, on cavale, on les vide. On recommence toute la journée, midi, coupure, sous les hurlements de la capot. Bon, bah, quand on rentre au bloc, on est harassé. Il fait chaud, c'est au mois de juin, juillet. On a faim, on a soif. Il faut se ressaisir, il faut tenir le coup. On ne se laissera pas faire. Et c'est la vie de tous les jours. À midi, à la coupure pour un peu de soupe. Le soir, au Tseil Appel, il y a la tranche de pain. Et il faut préserver sa gamelle. Parce que si tu n'as pas de gamelle, ben, tu ne pourras plus manger. On ne t'en donnera pas une autre. Et on organise au camp. Alors, on dort avec sa gamelle accrochée sur le ventre. On dort avec tout, d'ailleurs, parce que même si on te fauche tes sabots, t'es foutu, demain tu pourras plus sortir sans sabots d'abord. Et puis, les pieds, il faut les protéger. C'est par là que commencent toutes les maladies.
Paulette et ses camarades veulent vivre. Elles rencontrent Macha, une résistante française. Macha les informe de la formation d'un comité de résistance internationale, alors que tout acte de résistance entraîne la mort systématique dans le camp. Soutenue par le Comité international clandestin et son principal contact, Marie-Claude Vaillant-Couturier, Paulette s'accroche.
Donc on a été confrontés très rapidement avec la réalité. Et Macha nous dit qu'il y a un comité qui est en train de se créer sur l'initiative de résistants chez les hommes, un comité de résistance internationale au camp qui se structure. Donc, il y a des nouvelles qui circulaient, des nouvelles de la guerre, des nouvelles du front. On nous fait changer de camp. Nous étions dans le camp de quarantaine. On nous emmène dans le camp où les gens sont affectés dans des commandos stables déjà. Et on nous emmène dans une baraque où il n'y a personne. Puisque c'est durant la journée, tout le monde est au travail. Alors on demande à la Blokova où on est. Elle dit, vous êtes au bloc du Canada. Alors le Canada, c'était un commando qui regroupait tout ce que les Allemands raflaient, tout ce que les déportés amenaient avec eux, dans leurs bagages, leurs vêtements. C'était une usine de récupération de tout ce qui était récupérable, plus les biens des gens qui amenaient leurs bijoux, leur argent. On travaillait donc à ce commando. Et notre boulot, c'était de faire du sabotage. Si on découvrait un joyau, une pièce de monnaie ou quelque chose, de le détruire, de le foutre en l'air, de le foutre aux chiottes, de le détruire, de faire gaffe. Une de nos camarades, une des cinq, a été exécutée parce que dans le linge qu'elle a trié, il y avait une chemise déchirée. Elle a été martyrisée, emmenée au bunker, elle a été tuée. Alors les hommes nous ont demandé d'essayer de ne pas détruire, mais de planquer, si on pouvait, de l'argent, des monnaies, parce que eux le passeraient au camp des hommes, ceux qui sortiraient feraient rentrer des médicaments et serviraient à sauver des vies humaines. Quand la Croix-Rouge est venue, la Croix-Rouge de Genève est venue à Auschwitz, c'est au Canada qu'elle est venue voir et savait qu'il y avait des fours crématoires. Mais on est venu lui montrer le commando où les filles étaient propres parce qu'on passait la douche avant de rentrer au camp. On changeait de vêtements.
De confession juive, Paulette se définit avant tout comme communiste. Sa culture yiddish, à laquelle elle est très attachée, est d'abord construite autour d'une histoire sociale et politique. Une judéité sans Dieu, ce qui ne va pas sans provoquer des tensions avec les autres jeunes filles qui partagent la baraque de Paulette et de ses camarades.
C'était le jour du grand pardon. Moi, je ne savais pas, mais il y avait des petites juives polonaises qui savaient. Et à midi, quand on nous a appelés pour la soupe, on s'est retrouvés, nous, les quelques copines, à sortir prendre notre soupe. Les filles jeûnaient. On a d'ailleurs été soufflés de voir qu'on n'est que nous, quelques-unes seulement. Bon, et le SS, très ironique, nous a rappelé « Venez, venez, aujourd'hui, il y a du rab. » Alors on a dit non, on a une autre ration. Nous n'acceptons pas de rab, alors ils ont vidé les gamelles de soupe, ironiquement. Alors on a commencé à avoir une audience. D'abord le fait qu'on n'ait pas accepté de supplément, parce qu'on avait drôlement faim. Hein. C'était dur de voir toute cette soupe par terre. Elles ont commencé à nous respecter. Et petit à petit, elles s'intéressaient à ce qu'on disait, à ce qu'on parlait, à ce qu'on faisait. D'essayer d'être joyeuse et de remonter le moral et de donner son morceau de pain à la copine qui n'est pas bien aujourd'hui. Donc, il y a eu ce comité international créé à Auschwitz, une tour de Babel, toutes les langues. Il y a eu des commémorations, un 1er mai, où je faisais la garde dans ce bloc pour surveiller que personne, aucun SS n'arrive, où les filles ont chanté en sourdine dans toutes les langues des chants révolutionnaires, mais c'était extraordinaire, ça. Ça donnait une bouffée d'air nouveau pour tenir le coup.
Le récit de Paulette Sarcé est le sien et celui des siens. Un témoignage rare par la force et la précision des actes de résistance vécus et décrits à l'intérieur des camps. Paulette est fidèle à son serment pour la reconnaissance des actes de résistance à Auschwitz et pour nommer les disparus. Lorsque Paulette Sarcé est filmée par Jean-Patrick Lebel en 1983, elle s'assume comme porte-parole d'une épreuve historique unique.
Donc, la résistance s'organise, la solidarité s'organise. Il faut essayer de faire sauter ces fours crématoires. Aussi, c'est une époque où les transports hongrois arrivent jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, les transports. On a prolongé la voie ferrée qui s'arrêtait d'abord à Auschwitz, on l'a prolongée jusqu'à Birkenau, jusqu'à la porte et ces familles entières qui font la queue pour aller mourir. Et nous sommes derrière les fils de fer et on leur dit, vous allez mourir, révoltez-vous, on vous aidera si on peut. Il y a eu quelques cas de révolte, mais ça ne s'est pas généralisé, on peut le comprendre. On peut le comprendre, c'est difficile de mourir. Et on ne croit pas. Et les fours crématoires travaillent nuit et jour, nuit et jour, nuit et jour, tant et si bien que ce n'est pas suffisant et qu'il y a des fosses de chaux vives où on jette les gens dedans. Alors, il y a, parmi ces filles, du comité international qui travaille dans des usines de munitions à l'Union. Et leur rôle, c'est tous les jours, au risque de leur vie, malgré la fouille, malgré le contrôle, de ramener de la poudre explosive par petites quantités, comme des fourmis tous les jours. Quatre de nos camarades ont ramené de la poudre explosive. Et puis, je crois que c'était la fin de l'été, en tout cas 44, une détonation. Ça saute. Alors on essaye de courir à droite, à gauche. On pense que ça a tellement sauté que les fils de fer sont ouverts et qu'on va pouvoir sortir. Mais c'était pas suffisant. C'était pas suffisant. Tout de suite, le camp est pris en main par les Allemands. Les hommes du Sonderkommando ont pris la fuite. Il y en a qui ont été descendus sur place. Il y en a qui ont été jusqu'à la Vistule. Tous ont été exécutés. Mais il y avait eu un acte de révolte qui restera dans l'histoire d'Auschwitz. Mais les Allemands n'en restent pas là. Il y a une enquête à faire. Et on trouve les quatre filles qui ont sorti l'explosif de l'Union jour après jour. Et au mois de janvier 45, on a eu droit à nouveau au spectacle, pendaison, deux filles dans la journée et deux filles le soir ont été pendues, des filles merveilleuses, des jeunes, 18, 20 ans, 21 ans. Elles sont mortes courageusement en criant que les Allemands seraient battus, que l'armée rouge vaincra. Et qu'il y a des gens qui vivront et qui raconteront.
Paulette et ses camarades, Paulette et ses sœurs, qu'elle considère comme la chair de sa chair, sont évacuées du camp d'Auschwitz à celui de Ravensbrück, après avoir survécu 2 ans, de juin 1943 à janvier 1945. Les jeunes femmes, déjà épuisées, vont devoir affronter une longue marche et l'absence totale de nourriture.
Le front s'approche. On est début 45. Il y a des bombardements. Pas loin, on entend les bombes tomber. Voilà des moments de joie. Même s'il faut tomber sous une bombe soviétique, mais au moins pas tomber par les Allemands dans la chambre à gaz. Notre angoisse, c'est encore de rester toutes ensemble. Pour ma part, avec quelques camarades, dont une camarade est médecin, et qui nous dit que les Allemands ont brûlé toutes les archives, que le camp est dynamité. Les Allemands lui ont fait savoir. Le camp est dynamité, aussitôt qu'on sort, tout explose. Alors on décide de partir et d'essayer de nous évader en route. 18 janvier, en Haute-Silésie, de la neige jusqu'aux genoux, et voilà des hordes de squelettes qui marchent, encadrés de SS sur des vélos, avec les chiens, interdiction de s'arrêter, celui qui s'arrête est fusillé sur place, et on marche, et on marche, et on marche toute la nuit. On se traîne. Alors on a traversé Berlin, Charlottenburg, et on est arrivé à Ravensbrück. Et les Allemands nous ont dit que Roosevelt est mort, que la guerre est bientôt finie. Alors il fallait tenir le coup. Il fallait tenir le coup, mais c'était pire. Il n'y avait pas cette ration assurée tous les jours. Il n'y avait rien à manger. Nous mangions des racines quand on sortait dehors. On ramenait des épluchures qu'on trouvait pour nos camarades qui étaient restés au bloc. Il n'y avait rien à manger. Et le temps a passé, nous sommes le 1er mai. Et à l'intérieur de ce petit bloc, on réunit un petit comité et à nouveau on chante avec espoir, mais on n'en peut plus. On n'en peut plus parce qu'on crève de faim. On sentait la faim venir parce qu'en allant travailler, on a rencontré des prisonniers de guerre français. Il y avait un stalag français à proximité et on parlait en passant. On se donnait des nouvelles et ils nous disaient « Courage, courage, c'est la fin, c'est la fin. » Alors nous, on rentrait avec ces nouvelles et on disait aux femmes « il faut tenir, c'est la fin. Ici, il n'y a pas de crématoire, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est nous exécuter, mais pas toutes. Quelqu'un survivra, mais il faut tenir. » On ne pouvait pas concevoir comment serait la libération. Mais si il se passait quelque chose, qu'on prenne en main les femmes pour les calmer, pour les organiser, pour qu'on prenne en main la cuisine, pour faire à manger pour tout le monde, pour qu'on prenne en main les médicaments, pour qu'on soigne le maximum de femmes pour survivre si la liberté arrive. Finalement, Irène et moi, on sort. On sort, il n'y a personne dans le camp. Il n'y a personne. Il n'y a plus un SS. Alors, on commence à courir et taper aux portes. Tout le monde sort, il n'y a plus personne. Et là-dessus, nos prisonniers français arrivent et ils nous coupent les fils de fer électrique. Et on sort. Et on est libre. Et tous nos plans d'organisation évaporés, on n'y pense plus. Et c'est même pas la liesse. On ne sait pas ce qui nous arrive. Je me rappelle avoir cueilli le parterre de pensées, cueilli des fleurs, parce que devant le parterre du bureau des SS, il y avait un parterre de pensées. Et une autre camarade, elle ramasse des rutabaga, et un Français arrive et lui... Il lui renverse, il lui dit « C'est fini les rutabaga pour nous. » Et nous voilà toutes les Françaises parties, hébergées dans leur baraque aux prisonniers. Heureusement, parce qu'ils avaient fait un civet de lapin et ils nous ont empêchés de manger. Ils ont dit « Vous ne mangerez rien ce soir et on vous apprendra à manger. » Heureusement, pourquoi ? Parce que quand nous sommes retournés au camp, il était jonché de cadavres. Les femmes se sont précipitées dans les cuisines, manger tout ce qui s'est trouvé, cru, et mortes dans la nuit de dysenterie. Le camp était jonché de cadavres. On était libres. Elles étaient libres, elles n'ont pas vu la liberté. Et toute notre organisation ne l'a pas respectée parce qu'on s'attendait si peu à la liberté, qu'on n'a pas réalisé qu'on était libre, qu'on est sorti comme ça à marcher sur une route libre. Libre. Quel sens ça, ce mot libre ?
Après de longues pérégrinations à travers l'Allemagne dévastée, Paulette et son groupe de rescapés atteignent Lille le 20 mai 1945. Elles subissent un contrôle sanitaire et un contrôle d'identité. On leur remet un manteau et un peu d'argent. Le 23 mai, Paulette retrouve ses parents et son petit frère. Sur les 57 jeunes juifs communistes arrêtés avec elle, ils ne sont que 6 à avoir survécu.
On avait tous les espoirs, mais on était là pour témoigner. Et c'est ce qu'on voulait. Du jour où on a pris notre engagement à travers cet enfer d'Auschwitz jusqu'à la libération, c'était notre vœu, c'est pour ça qu'on a lutté, de témoigner pour que ça ne se reproduise pas. Que jamais plus ça. On vit avec la déportation, mais je le vis intensément. Mais je ne le communique pas d'une manière traumatisante. Mes émotions, mes cauchemars, mes angoisses, je les garde pour moi. Je ne les communique pas. Ça arrive. Voilà. Et puis, le temps a passé. Dans le monde, il y a des gens qui meurent, des enfants qui meurent de faim. Croire qu'on n'a pas tiré des leçons de ce génocide. C'est pour ça qu'on se bat encore aujourd'hui, pour préserver la paix et la liberté.
Paulette Sarcé, juive communiste et résistante à Auschwitz. C'était un épisode documentaire de La Marche du Monde, signé Valérie Nivelon, Maxime Grimbert et Sophie Janin, avec la participation de l'historien Tanguy Perron, chargé du patrimoine audiovisuel à Périphérie. Toutes nos amitiés à Paulette Sarcé, toujours debout, résistante, du haut de ses 95 ans. Paulette, on vous embrasse bien fort. Il me reste à vous signaler la sortie simultanée de l'entretien intégral de Paulette Sarcé avec le documentaire Cité de la Muette en DVD dans une coédition Synarchive et Périphérie que je remercie d'avoir choisi RFI.